parle peut-être trop vite, mais c'est ce que je ressens dans mon petit cœur en ce moment. Probablement une de mes collaborations préférées cet été, Farnell Morissette. C'est une découverte. Je l'écoute avec les gars depuis, mon Dieu, depuis qu'il est avec vous. Ça fait quoi?
Plusieurs mois, ça fait-tu un an?
Presque un an.
T'as vu pas mal au début de la saison, je pense.
Que oui. Fait que presque un an déjà qu'il est avec vous. Ce gars-là vous vulgarise n'importe quel élément d'actualité. C'est réfléchi, c'est accessible. Puis je pense que c'est ce que ça prend parce que c'est beau des experts des fois, mais tu te perds un peu dans le discours. Farnell nous ramène ça à la base. J'adore ça. Puis ça a été un plaisir de collaborer avec lui cet été. Ce qui fait que vu que c'est notre dernière, bon, on le ramène aujourd'hui.
Mais quand t'as dit que tu parlais peut-être trop vite, c'était par rapport à quoi?
Ben, je veux pas dire haut et fort que ça a été mon préféré de l'été.
Tu comprends? Tu protèges.
Je me protège. Il nous reste quand même pas mal d'invités d'ici 10 heures.
C'est bon.
Je fais attention quand même. La campagne démocrate qui a eu probablement ses deux meilleures semaines depuis que c'est Kamala Harris qui remplace Biden. C'est une personnalité qui fait jaser. Elle a une énergie. Elle utilise les réseaux sociaux. On la voit dans le positif. Je pensais que l'attentat contre Trump allait le suivre plus longtemps que ça.
On en parle plus. C'est déjà derrière.
Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Premièrement, Farnell, bon matin, merci d'être là.
Bon matin, merci à vous. Puis moi, j'ai pas de misère à dire, Audrey, t'es ma préférée.
Oh, t'es là! C'est bien fin, ça!
Hey, là, Reg, j'espère qu'il est pas à l'écoute, par exemple.
Mais Reg, il revient juste lundi. On réglera ça la semaine prochaine.
Ben oui.
La campagne connaît ses meilleurs moments depuis l'arrivée de Harris. Est-ce que c'est juste, je vais dire, de penser qu'elle était très, très prête, mettons, à se lancer? Peut-être qu'elle attendait un peu le retrait officiel de Joe Biden?
Avoir la vitesse avec laquelle elle était capable de consolider pas juste les appuis de quelques ténors, mais en dedans de 48 heures, elle avait l'appui de assez de délégués pour pouvoir essentiellement se garantir ou presque la nomination. Voir la vitesse avec laquelle son équipe a pris contrôle de la campagne, à la vitesse avec laquelle le message était déjà prêt. Je suis pas dans le secret des dieux, là. Je suis pas dans les coulisses, mais j'ai bien de la misère à croire qu'elle était pas prête longtemps avant que Biden annonce qu'il se désistait. Ça veut pas nécessairement dire qu'elle était pas prête à appuyer Biden, mais mettons que quand tu te prépares autant pour un juste au cas où, c'est que tu penses que ton juste au cas où, il y a des bonnes chances d'être vrai, mettons. Son équipe était très prête et elle est sortie en courant.
On dirait que je pense que c'est tout à son honneur. Je pense que ça démontre le sérieux derrière ses démarches. Je pense que ça démontre aussi le sérieux avec lequel peut-être elle peut gérer carrément le pays. C'est un avis super personnel. Là, en même temps, je pense juste que j'aime la façon qu'elle se présente jusqu'à maintenant à voir pour le reste. Elle utilise les réseaux sociaux puis ça y rend service, définitivement. Ça fait un peu penser, je trouve, puis on en a parlé ensemble aussi dans les dernières semaines, à l'époque Obama. Ça avait été fait aussi. J'imagine que c'est un gros game changer d'être aussi présent sur les plateformes. Hein?
Je pense que la comparaison est très, très bonne. Obama, en 2008, il faut se rappeler, là, en 2008, Facebook, c'était encore relativement nouveau pour bien du monde. Là. Mais Obama, la campagne de 2008, a été la première à avoir une campagne ou un volet de la campagne spécifiquement axé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, surtout sur Twitter. Là, ce qu'on voit Kamala Harris faire, c'est remettre ça à la sauce 2024. Son TikTok a explosé. L'équipe des réseaux sociaux qui travaille pour elle sur Instagram, sur TikTok, ils sont parmi les premiers à sauter sur la plupart des nouveaux trends, les nouveaux développements, les nouveaux memes. Ils utilisent à merveille tous les codes, tous la culture spécifique, assez difficile à déchiffrer pour les gens qui ne baignent pas déjà là-dedans. Mm-hmm. Alors, oui, c'est un game changer, mais il faut faire attention parce que c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on gagne des élections, généralement. Encore aujourd'hui, les élections sont surtout décidées par un public un peu plus âgé. Typiquement, statistiquement, c'est les gens dans la cinquantaine et plus qui vont être le plus déterminants dans la plupart des élections. Mais ce que ça fait, par exemple, avoir une super bonne présence, une bonne énergie sur les réseaux sociaux, ça va te chercher des bénévoles, ça va te chercher des dons. Puis là où on est dans la campagne, c'est exactement de ça qu'ils ont besoin.
Puis, tu sais, c'est drôle parce que depuis deux semaines, je voyais certains de ces TikTok passer de temps en temps quand moi, je perdais mon temps sur TikTok à place d'aller dormir. Puis que je me rendais compte que ça faisait une heure j'étais sur TikTok. Là. Mais là, depuis 48 heures, j'ai deux choses dans mes TikTok. J'ai les Olympiques et j'ai Kamala Harris qui est partout. Puis sa façon aussi, tu sais, c'est très, très positif à mettre de l'avant les artistes qui la supportent, à mettre de l'avant certains de ses discours enflammés, mais jamais vraiment dans les attaques. Ça, j'en vois pas beaucoup passer. C'est une campagne qui me semble être axée beaucoup sur le positivisme. Puis, je vais être honnête, le vent de fraîcheur que ça amène, tu sais, hier, je la voyais passer, je me... Il y a une semaine, j'avais pas vraiment d'avis sur Kamala Harris. Je m'en foutais un peu. Tu sais, cool que ce soit plus Biden qui était ben trop mêlé. Puis... Mais hier, je la voyais et me dis, ouais, Kim, c'est vrai qu'elle est charmante. Puis tu dis que les élections se gagnent pas avec les jeunes. Mais si c'est pour être très, très, très serré, est-ce que ça se peut que quand on aille regarder par après les votes par tranche d'âge, on se dise, OK, ouais, finalement, elle a gagné avec les, je sais pas, 21 jusqu'à 40 ou 35 ans, mettons?
Ça, on dit que les élections se gagnent pas avec les jeunes, tous les votes comptent, là. Mais ouais, ton algorithme est très similaire au mien, faut croire. Moi aussi, depuis la dernière semaine, c'est très, très clair qu'il y a une grosse poussée d'énergie pour Mme Harris. Ce qu'elle fait très bien, c'est justement, elle a de l'air le fun. Puis oui. Quand on compare à l'énergie qu'on avait avant, quand c'était Biden contre Trump, j'ai pas l'impression qu'il y avait grand monde qui s'amusait beaucoup là-dedans. Là. Alors, ramener le fun, ça va en effet amener beaucoup de jeunes en politique, ça va amener beaucoup de jeunes à vouloir faire du porte-à-porte, à faire des appels, à envoyer des tracts, ce qui, après ça, oui, mène à gagner des élections, potentiellement. C'est encore très tôt, là, mais où ils sont maintenant, c'est cette énergie-là qu'ils vont chercher, et puis c'est très similaire à des tactiques qu'on sait qui ont fonctionné dans le passé, notamment avec Obama.
Max a dit quelque chose que je trouve super intéressant, les attaques envers les républicains. C'est souvent, puis écoute, on peut même rapporter ça ici, là, je veux dire, c'est sneaky, là. C'est des attaques qui vont de façon personnelle, souvent, qui, tu sais, on connaît les deux clans pratiquement pour ces attaques-là, au final. Mais là, j'ai l'impression qu'avec Kamala Harris, c'est plus intelligent, c'est plus tricoté, c'est plus délicat. Est-ce que tu as le même sentiment?
J'ai un sentiment très similaire. Puis je pense que ce qui est surtout notable du changement de cap, en effet, c'est que c'est plus des attaques à la « Donald Trump est une menace pour la démocratie, Donald Trump est un proto-fasciste ». On n'est plus en train de lancer des énormes roches de même. Le message dans la dernière semaine a changé. Les démocrates, maintenant, ils répètent juste « Donald Trump, il est bizarre ». On s'entend, là. On n'est plus en train de dire la même chose, de faire un appel à la fin du monde imminente que juste dire ben, « il est comme bizarre, ce gars-là ». Puis là, on reconnaît qu'il est bizarre. Ramenons les choses à ce qu'on est supposé faire, à la politique un peu plus directe, sérieuse, ce qui, après ça, permet de faire le pivot vers ben, les politiques que la campagne Harris veut faire avancer. Ils ont sorti dans la dernière semaine un offensive très claire sur l'opposition sur l'avortement. Oui. Ils parlent de faire de la réforme de la Cour suprême. Ces messages-là commencent à sortir beaucoup plus clairement maintenant qu'il n'y a plus tout le bruit à faire des attaques apocalyptiques contre leur adversaire.
Ben, tu as mentionné le débat sur l'avortement. Est-ce que le fait que ça revienne beaucoup et que les démocrates l'amènent beaucoup présentement, ça risque d'être un gros, gros, gros problème pour Trump où les États-Unis sont tellement divisés à ce niveau-là que ça ne changera peut-être pas grand-chose?
C'est drôle à dire, mais je pense que présentement, la campagne républicaine préférait ne pas parler d'avortement. Puis c'est quand même étrange quand on considère l'historique du Parti républicain, mais la position de la base républicaine, c'est-à-dire les gens que le parti a besoin pour faire du bénévolat, pour faire des dons, leur position à eux est favorable à des lois très sévères fédérales qui rendraient l'avortement quasiment impossible partout aux États-Unis. Donald Trump, lui, préfère une position qui est plutôt modérée, qui est un peu plus populaire, qui est de dire, bon, ben, on va laisser les États individuels choisir, ça va être quoi, les lois État par État sur l'avortement. Pendant ce temps-là, la campagne Harris sort son message disant « Nous, on va ramener la loi à comme elle était sous Roe versus Wade », c'est-à-dire l'avortement va être légal, protégé par les lois fédérales partout à travers les États-Unis. Ça, c'est la position qui est plus populaire avec la majorité des gens aux États-Unis, mais qui est moins populaire avec la majorité ou la base plutôt des républicains. Alors, le plus il force la campagne de Trump à en parler, le plus ça fait mal à cette campagne-là parce que ça souligne une position qui n'est pas facile pour Trump.
Je veux qu'on parle d'origine de Kamala Harris. En entrevue, Trump a comme laissé sous-entendre, en fait, il a été très clair à ce sujet-là concernant le fait de plus savoir si Harris était d'origine indienne ou noire. Il se tire-tu dans le pied ou ça fit un peu avec le personnage qui dégage qu'il est?
Ça a été, ça c'était hier, il était en entrevue avec une association de journalistes noirs. Ça a été une entrevue qui est très mal passée pour Trump. Mais ouais, c'est quand même intéressant parce que ça souligne un peu les difficultés dans les relations raciales aux États-Unis. T'sais, Kamala Harris, sa mère est indienne, son père est jamaïcain, son père est d'origine, je sais pas exactement, mais je pense mixte, mais en tout cas, d'origine jamaïcaine. Sauf que aux États-Unis, Kamala Harris, elle est noire. Malgré tout son héritage mixte, elle est noire. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez particulier à la réalité culturelle américaine où dès qu'on est un peu noir, on est noir. Et le reste, ça rentre pas facilement dans une espèce d'équation culturelle. Ce que Trump essaye de faire, en tout cas, c'était très maladroit de sa part, essayer d'impliquer qu'elle l'était pas vraiment. Ça rappelle un peu certaines choses que certains républicains disaient à propos de Obama, que, ben oui, OK, mais sa mère est blanche, puis son père venait d'Afrique, c'est pas un vrai noir. Ça passe vraiment pas, ce genre de message-là, même avec beaucoup de républicains. Je pense qu'il va être obligé de faire un peu de rétropédalage là, ou s'expliquer autrement, mais c'est Donald Trump, alors on sait jamais qu'est-ce qu'il va faire.
Parce qu'on a même parlé de DEI, là, Diversity, Equity puis Inclusion, là, ce qui fait référence au programme de plusieurs compagnies qui favorisent l'embauche de minorités, là.
Oui, ça, c'est un terme qui est, en anglais, on dit un dog whistle, c'est un terme qui est conçu pour invoquer des avantages que Mme Harris aurait eu parce qu'elle est noire, parce qu'elle est indienne. C'est une façon à peine voilée de faire un appel à un certain racisme sans être obligé de dire spécifiquement le mot race. Et dans les premiers jours, les premières heures après la candidature confirmée ou presque de Mme Harris, il y a beaucoup de voix républicaines de façon un peu maladroite qui ont commencé à invoquer ça parce qu'ils pensaient que ce serait peut-être populaire. Et très vite, je pense qu'il y a eu un message qui est sorti de la partie de la part de la campagne républicaine pour dire arrêtez de parler de ça. Mais le dommage était fait. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir vu un début de tentative d'attaque raciale contre Mme Harris.
Mais justement, je vais la poser clairement la question. Est-ce que les républicains paniquent présentement? Parce que on regarde ça depuis 2 semaines, là, on l'a dit, la campagne des démocrates a jamais aussi bien été depuis que Mme Harris est là. Puis du côté des républicains, ben là, c'est ça, c'est des sorties comme ça controversées de Trump. On a l'impression qu'il perd un peu le contrôle.
Perdre le contrôle, oui, perdre le message. Je pense que les républicains ont vraiment eu 2 très mauvaises semaines. Il était pas prêt à ce que Biden se désiste aussi
Et
rapidement. Il
pourtant,
était certainement pas prêt à ce que Mme Harris consolide aussi rapidement les appuis et parte en courant sa campagne comme ça. La décision de Trump de nommer J.D. Vance comme son colistier à la vice-présidence a été largement critiquée. Sa candidature apporte pas grand-chose à la nomination. Et en plus, bon, ben, l'espèce de réaction un peu incertaine, ça donne l'impression que, ouais, il y a quelqu'un qui a donné un coup de volant au Parti républicain, puis le Parti républicain n'était pas prêt, pas trop certain comment réagir. Ils vont se reprendre, c'est encore très tôt dans la campagne, on n'est pas à un revirement prêt, mais pour l'instant, ils ont eu de la misère pour les 2 dernières semaines.
qui Kamala Harris devrait choisir pour être colistier, finalement, peut-être prochain VP aussi?
Ça, c'est la question qui va être au centre de toutes les prédictions, tous les gens qui essaient de faire des prédictions. Moi, je vais être bien honnête avec vous, des prédictions dans la politique américaine, j'en fais plus parce que ça tient genre tout au plus 2 heures, puis après ça, il faut qu'on se révise. Mais il y a des choses qui sont assez probables. Kamala Harris est une femme noire indienne qui vient de la Californie. Alors, probablement, généralement, quand on cherche un candidat à la vice-présidence, on cherche quelqu'un qui va complémenter la personnalité politique et aller chercher des appuis que le candidat ou la candidate à la présidence n'est pas nécessairement capable d'aller chercher. Alors, probablement que ça va être un homme, probablement que ça va être un blanc, parce que t'sais, malheureusement, il y a pour beaucoup de disons, progressistes modérés sont prêts à appuyer une femme noire, mais un ticket qui a 2 minorités, ça serait peut-être trop pour eux. C'est le genre de calcul qui est malheureux, mais c'est dans le réel politique des États-Unis. Probablement que ça va être quelqu'un qui vient du Midwest ou d'un environnement plutôt rural, qui est capable d'aller chercher les électeurs populistes, ceux qui sont beaucoup visés par les républicains, pour des raisons complexes qui sont en lien avec le collège électoral, ça va fort probablement pas être Gavin Newsom, parce que Gavin Newsom, qui est gouverneur de la Californie, ferait que et la candidate à la présidence et le candidat à la vice-présidence seraient tous les deux californiens, ça rend les choses très, très difficiles. Alors, probablement que ce ne sera pas lui. Mais moi, si j'avais un petit 2 à parier, je dirais probablement Pete Buttigieg, parce qu'il remplit beaucoup de ces choses-là. Il est très charismatique. Il vient de l'Indiana. C'est un vétéran. Il est jeune. Ça complémente beaucoup des forces de Kamala Harris. Sinon, il y a peut-être aussi Tim Walz.
On n'a pas le choix de parler, par exemple, du fait qu'il y a un bémol. Tu sais, tu disais, les gens sont malheureusement pas nécessairement ouverts à avoir deux minorités. Je pense qu'on n'a pas le choix d'amener l'homosexualité dans le sens où il est ouvertement homosexuel. Dans plusieurs secteurs, plus conservateur des États-Unis, ça pourrait probablement causer problème. Penses-tu que ça va jouer dans la balance?
J'espère que non, mais encore une fois, la réalité politique, c'est qu'il faut que tu gagnes. Et puis, pour beaucoup, beaucoup d'Américains, particulièrement plutôt conservateurs, il y en a beaucoup qui sont prêts à appuyer une femme, beaucoup qui sont prêts à appuyer une femme issue des communautés minoritaires et qui seraient potentiellement prêts à appuyer un homme homosexuel. Mais les deux, c'est peut-être trop. Et puis, on va voir si les démocrates sont prêts à faire un pari un peu plus osé, d'aller chercher encore un peu plus, pousser encore un peu plus loin, voir s'ils peuvent être encore plus progressistes sur leur nomination ou s'ils vont aller avec un choix plutôt safe, disons, qui est quelqu'un qui ne va pas trop faire parler de lui pour ses propres particularités aussi. C'est vraiment, je veux préciser, là, c'est malheureux que c'est ça le calcul qu'il faut faire dans un monde idéal. Ça ne serait pas ça, mais c'est la réalité des questions politiques qu'il faut faire dans le contexte culturel des États-Unis.
Puis c'est intéressant parce qu'en t'écoutant sur le potentiel choix de Kamala Harris, ben en tête, j'ai encore le choix de Trump. Puis je me rends compte que l'erreur, je veux te poser la question, ça a-tu été de prendre quelqu'un qui ressemble trop à Trump?
Moi, ma lecture du choix de Trump, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui allait être loyal, point final. Un chien de poche. Quand Trump a fait son choix de vice-président, Trump pensait encore qu'il allait faire campagne contre Joe Biden, pensait qu'il l'avait dans la poche, pensait qu'il y avait le vent de son bord. Et il se souvenait du moment, le 6 janvier 2021, où Mike Pence, son ancien vice-président, avait refusé d'embarquer dans la tentative de Donald Trump de faire invalider le résultat des élections. Mike Pence qui a choisi de respecter son rôle constitutionnel plutôt que s'embarquer dans des choses un peu questionnables, mettons. Ça avait beaucoup fâché Donald Trump. Ça a été une énorme rupture entre les deux. Mike Pence qui refuse d'appuyer Donald Trump maintenant, qui est quasiment en train de dire qu'il va appuyer Kamala Harris. Il l'a pas dit, mais on a l'impression qu'il n'est pas loin. Donald Trump cherchait quelqu'un qui allait être loyal à lui et c'est tout. Et il a choisi J.D. Vance, qui s'est avéré un très mauvais choix.
On fait plus de paris concernant les élections américaines. Mais selon toi, puis je vais terminer avec ça, je la pose chaque fois parce que ça change chaque fois. Les chances que Kamala Harris devienne présidente, selon toi, est-ce qu'elles sont élevées?
L'élection est encore loin. Il y a un mois, c'était même pas la même élection qu'on était en train d'avoir. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que si l'élection avait lieu demain matin, selon les sondages qui sont encore en fluctuation, qui sont encore très, très loin d'être solides, Kamala Harris semble avoir l'avantage. Mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que Kamala Harris est juste dans une espèce de lune de miel présentement? On le sait pas. C'est certainement pour l'instant une des élections présidentielles aux États-Unis les plus intéressantes de l'histoire récente. Et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises. J'irai pas m'aventurer à essayer de déterminer ça va être quoi qui va se passer même dans une semaine.
Farnell Morissette, qui est vulgarisateur d'actualité, entre autres, vous pouvez le suivre sur ses différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Toujours un plaisir de jaser. Tu reviens quand tu veux. Évidemment, ça va probablement être la semaine prochaine avec le retour de Reg. Merci d'avoir pris le temps cet été d'être avec nous.
Ben merci à vous, puis super bonne journée. J'espère que ça continue à bien aller.
Je pense que c'est très clair, du moins, ce que tu nous as expliqué ce matin. Vous avez des questions pour Farnell en passant, on va lui faire parvenir. Je te souhaite une belle journée, là.
Bonne journée à vous tous. Merci.
Salut. Ah, mon Dieu, tu vois, lui, je vais m'ennuyer.
Ah ouais?
J'ai
ben, tu
trouvé
nous
ça
écouteras.
Facile. Ben, absolument.
Tu as le droit de nous écouter.
Je peux faire ça.
Tu viendras même t'asseoir ici,
ben,
si tu veux.
Écoute, si tu m'invites, c'est sûr que je vais prendre l'invitation, sans doute. Hey, on fait une petite pause, courte pause. Au retour, on parle des Jeux olympiques avec Dominique Gauthier, ex-skieur acrobatique qui les a fait en 98, les Jeux d'hiver. Mais il est là pour Radio-Canada du côté de Paris en ce moment. On a bien des affaires à se dire.